Bonsoir à tous et bienvenue à l'Institut d'astrophysique de Paris pour nos conférences mensuelles. Donc aujourd'hui, nous sommes mardi gras, sauf erreur, mais bon, personne n'est déguisé ici. Mais on va tout de même faire notre conférence. Alors ça va être une conférence un petit peu particulière. On est content d'accueillir de nouveau du public. Comme d'habitude, on est heureux d'accueillir des gens ici dans notre institut. Mais malheureusement, notre orateur de ce soir a été déclaré positif hier et donc il peut pas venir. Et donc il va faire cette conférence à distance. Mais heureusement, il est en bonne santé, donc il va pouvoir bien nous parler. Donc on espère que ce sera le moment ce soir ou en ce moment où on passe d'une épidémie grave et dramatique à une maladie moins gênante, qui va donc permettre à notre orateur de parler. Et donc on retransmet également, donc bienvenue à vous tous là qui êtes ce soir à l'Institut d'astrophysique dans notre amphithéâtre, et bienvenue aussi à ceux qui nous suivent sur YouTube. Donc nous continuons à diffuser en direct, et bien sûr, donc les personnes dans le public pourront poser des questions, faire des interventions à la fin de la conférence, et les personnes sur YouTube peuvent mettre des commentaires, poser des questions pour l'orateur pendant la conférence sur le chat, et moi je les suivrai sur mon ordinateur et je transmettrai vos questions à la fin de la conférence à notre orateur. Quelques mots sur la suite de notre programme. Le mois prochain, le 5 avril, nous aurons le plaisir de recevoir notre collègue Rosine Lallemand de l'Observatoire de Paris, qui parlera de milieux interstellaires, si je ne me souviens bien. Et là, le mois suivant, le 3 mai, nous aurons Florent Delphi, qui est juste à côté également à l'Observatoire de Paris, qui parlera de débris spatiaux et de collisions. Et nous finirons l'année le 7 juin avec David Valls-Gabo, si je me souviens bien. Aujourd'hui, donc, nous avons le plaisir de recevoir notre collègue Henry Joy McCracken. Donc, Henry Joy est astronome ici à l'Institut d'astrophysique de Paris. Henry a mené ses études en Angleterre, au Canada. Il a travaillé dans différents endroits, en Suisse, aux États-Unis, en Italie, à Marseille. Et donc, il est ici à l'Institut d'astrophysique depuis 2003. En tant qu'astronome. Astronome, ça veut dire qu'il fait à la fois de la recherche, il fait des services d'observation et puis il enseigne à l'université. Ses spécialités, ses thématiques de recherche sont essentiellement la formation, l'évolution des galaxies, la formation des grandes structures, les relations entre l'univers sombre et l'univers lumineux, comment tout ça permet de créer les grandes structures. Donc il a passé beaucoup de temps, il continue à passer beaucoup de temps à mesurer des distances, des masses dans des millions de galaxies à travers de grands relevés. Il est très impliqué dans la mission Euclide, une mission de l'Agence spatiale européenne dans laquelle notre institut est très, très impliqué de manière générale. Et donc aujourd'hui, Henry va nous présenter une conférence intitulée... Ah, je ne vois pas le titre, il est en gros, alors je vais mettre le titre en gros pour pouvoir vous dire bien le titre. Voilà, on devrait le voir. Donc, dans la nuit des temps, dévoiler les plus grandes structures de l'univers primitif avec les télescopes spatiaux James Webb et Euclide. Donc, Henry, à distance, je t'en prie, nous t'écoutons.
Merci beaucoup. Je vais commencer mon présentation en disant que j'étais très content d'être là devant vous après d'avoir fait deux ans de Zoom. Mais en fait, il se trouve que jusqu'à la fin de cette pandémie, j'ai réussi de rattraper le COVID. Mais je suis très contente que je pouvais quand même présenter des résultats que je vous montrer ce soir, qui est le résultat de plusieurs années de travail. Et je suis aussi très contente d'avoir cette opportunité de présenter ce travail et qu'une place si libre dans le programme très chargé de conférences publiques de l'IAP. Donc, le thème principal que je vais aborder dans les prochaines 50 minutes sont plusieurs. Et comme on est chercheur et astronome, j'aime bien toujours poser deux, trois questions qu'on essaie de répondre, trouver des réponses à ces questions pendant les présentations. Et très simplement, en fait, la première chose qu'on essaie d'interroger, c'est comment les galaxies sont-elles distribuées sur le ciel à très grandes échelles? Et comment cette distribution de galaxies était différente dans un passé lointain? Une autre chose qui était très importante, qu'on va voir, que la matière noire lui-même joue un rôle très important sur la formation des structures. Et on avait pas mal d'évidences par la manière différente, juste à tel point que la matière noire lui-même est importante. Et la dernière partie où je vais expliquer et parler en beaucoup plus de détails à travers le travail qu'on a fait sur le projet Cosmos, essayer de comprendre l'origine de toute première structure grâce à le travail qu'on avait fait pendant les dernières 15 ans sur le projet Cosmos et donner un petit regard vers le futur pour le futur survey qu'on va faire avec Euclide et James Webb. Mais pour commencer, on va regarder justement les galaxies, l'univers local. J'ai dit univers local parce que on va parler du, des structures qui sont visibles autour de nous, qui sont faites, on dirait, avec le télescope plus petit, et on dirait pour à peu près les, dans le 20e siècle, fin du 20e siècle, début du 20e siècle. Et je vais commencer par cette image ici. Pour moi, ça reste toujours une des images plus frappantes dans l'histoire de l'astronomie. C'est une image qui a pris énormément de travail à faire. C'est une image du le ciel. Et chaque carré dans cette image, il est coloré. Il a une coloré. Il avait une échelle de gris qui correspond à le nombre de galaxies à l'intérieur de ce carré. Donc, on voyait justement cette structure filamentaire dans laquelle les galaxies sont sur le ciel dans une manière qui n'est pas du tout uniforme. Il est, ressemble un peu à une grosse éponge. Et cette image était le résultat d'un travail monumental sur plusieurs chercheurs. Ça a commencé par deux chercheurs américains, Shane et Wertanen. Dans les années 40, il y avait un télescope qui ressemble un peu au télescope de carte du ciel. Avec ce télescope, Shane et Wertanen ont pris les plaques photographiques qui couvrent la presque totalité du ciel visible depuis Californie. Et sur ces plaques photographiques, il n'y avait pas d'ordinateur. Shane et Wertanen ont compté à la main le nombre de galaxies dans les petits carrés dans chaque plaque. Ça, c'est une des fiches que Shane et Wertanen avait faites. Donc, sur chaque carré dans chaque plaque, ça représente une seule plaque. Ils ont compté une par une le nombre de galaxies dans chaque sous-carré. Mais eux, ils n'étaient pas capables de traduire cet travail de 10 ans de compter 1 million de galaxies dans cette carte. C'est devenu après, quand les chercheurs à Princeton, Jim Peebles et collaborateurs, et Jim Fry, qui est un visiteur fréquent de l'IAP, avaient pris les fiches de Shane et Wertanen, entré dans un ordinateur et fabriqué cette carte. Et ensuite à partir de cette carte, fait la première mesure statistique de distribution de galaxies. Mais il y a plusieurs problèmes avec cette image. Le premier, c'est qu'on ne voit pas du tout où sont les galaxies. Il faut comprendre que les galaxies lointaines, les galaxies proches, ils sont empilées une des autres. On ne savait pas s'il y a une galaxie loin ou proche. Et pour faire ça, on avait besoin d'un spectrographe. Le spectrographe prend la lumière de la galaxie et à partir de le spectre, vous pouvez déterminer les distances. Le problème, c'est que jusqu'à très récemment, en fait, c'était très pénible et lent pour faire une mesure de distance d'une galaxie avec un spectrographe. Typiquement, ça a pris plusieurs heures pour chaque galaxie. C'était infaisable pour faire une couverture de ciel complète pour faire cette mesure de toutes ces distances. Mais avec l'arrivée du télescope, le Sloan Digital Sloan Telescope en Nouvelle-Mexique, c'était possible pour la première fois pour faire une cartographie plus ou moins complète de tout le ciel et mesurer les distances des galaxies. Et si vous avez suivi des autres conférences publiques à l'IAP, vous avez vu la conférence de Brice Ménard le mois dernier où Brice montrait en fait les résultats du Sloan où ils avaient fait cette très belle cartographie du ciel. Donc cette image pour moi, ça c'est une autre très belle image de l'histoire de l'astronomie parce que dans cette image, en fait, on voyait tout l'univers observable de nous en tant qu'êtres humains. Car à le centre, on avait la Terre. Et comme la lumière prend une quantité de temps finie pour arriver chez nous, et vu que l'univers, il a à peu près 13,8 milliards d'années-lumière, d'années, les volumes qu'on peut observer depuis la Terre est limité et les distances de plus lointaines que on peut voir c'est cette 13,8 milliards d'années qui correspondent justement à la surface du fond de feu micro-ondes. On ne pouvait pas les voir plus loin que ça parce que l'univers lui-même, il est opaque. Et on voyait les échelles différentes. Et ici, les différents types de galaxies que Sloan a observées. Et si je relance le film, on voyait les différents surveys. Là, le premier survey de Sloan. Le deuxième qui comporte des quasars. Et ensuite, les autres quasars qui sont des objets plus lointains, qui sont des galaxies très massives. Et on fait une petite tournée à envoyer les distributions des galaxies. On fait un petit zoom. Et là, maintenant, on voyait les galaxies plus ou moins pareilles que les galaxies observées par Cheney-Vertanen au centre. Cette surface, cette structure filamentaire avec la Terre au centre de l'image, avec la couleur qui correspond à les galaxies différentes. Mais on voyait dans cette image, il y a de gros espaces vides. Et ça, c'est parce que le Keck télescope de Sloan n'est pas capable de sonder des galaxies normales comme la galaxie de Cheney-Vertanen à la grande distance, par exemple, par ici. Et maintenant, dans le reste de ma présentation, je vais parler de qu'est-ce qu'on peut apprendre maintenant du contenu de cette sphère qui, pour l'instant, est inconnue. J'ai mes bonbons là si mon voix commence à partir, mais pour l'instant, ça va. Mais je reviens sur cette structure filamentaire qu'on a vue dans les images de Cheney-Vertanen, cette image filamentaire des galaxies. Et quelle est l'origine exactement de cette structure filamentaire? Déjà, à la fin des années 60-70, c'est devenu plus en plus évident que les matières lumineuses ne correspondent pas à tous les contenus du univers. Je ne veux pas entrer dans l'histoire de matière noire parce que ça sera un séminaire entier, mais c'était déjà évident quand on regarde, par exemple, les amas de galaxies, que la matière lumineuse ne correspond pas à toute la matière présente dans une image. Et avec l'arrivée des ordinateurs dans les années 80, c'était possible pour la première fois d'imaginer de faire des simulations du formation de structure dans l'univers avec des ordinateurs, avec les particules de matière noire. Donc, la chose qui est marrant, entre guillemets, avec la matière noire, c'est que la propriété de la matière noire, elle est relativement bien connue. C'est le matériel qui interagit avec l'autre matériel dans l'univers que par la gravitation. Il est froide. Et si vous mettez des particules de cette propriété dans l'ordinateur, tu fais tourner les manettes, vous sortez en fait les structures qui ressemblent furieusement les types de structures à grandes échelles qu'on voyait avec les cartes de Lick, mais aussi avec des sondages plus récents. À gauche, je vais vous montrer quelques images de la première simulation de matière noire faite dans les années 80. Et à droite, je vous montrerai une des dernières simulations avec beaucoup plus de particules. Là, je vous montre juste la matière noire. Et déjà, vous voyez que les distributions de galaxies, distributions de matière noire en grandes échelles, ressemblent furieusement à des distributions de galaxies à grandes échelles. Et la chose qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a cette hiérarchie de structures à petites échelles et à grandes échelles. On voyait les mêmes types de structures répétées. À grandes échelles, on voyait cette structure filamentaire. Et si vous regardez en plus petites échelles, on voyait des structures ici qui correspondent des amas de galaxies, des filaments dans lesquels la matière se concentre au centre de ces filaments. Et là, dans le dernier carré là, je vais vous montrer en fait les la structure, l'échelle d'une galaxie où on voyait que à le centre de galaxie, il y a cet énorme halo de matière noire et aussi avec le sous-halo de matière autour de ça. Et si vous comparez cette structure, la quantité de structure envoyée dans les images avec les mesures, on voyait que les modèles avec la matière noire arrive à prédire correctement l'agrégation de galaxies à grandes échelles. À petites échelles, c'est une autre histoire parce qu'à petites échelles, on avait des processus de formation de galaxies qui est un processus qui est très, très non linéaire. Mais je ne veux pas rentrer dans le détail de tout ça. Juste, la chose qu'il faut retenir, c'est que la matière noire arrive à reproduire les distributions des galaxies à grandes échelles. Notre petite pause. Bien sûr, si j'étais là, il y aurait peut-être déjà une question, mais est-ce que ce n'est pas un problème de gravité? Ça, c'est la question qui est toujours posée dans les séminaires. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de gravité? Donc, je veux déjà montrer les cartoons de Randall Monroe qui reprit cette idée que oui, bien sûr, tout le monde a déjà dit que peut-être il n'y a pas de matière noire, que la gravité est simplement différente à grandes échelles. Ça, c'est une bonne idée, mais en fait, cette idée que la gravité est différente à grandes échelles n'est pas capable de reproduire toutes les données qu'il y en a maintenant. Ça peut être une très longue et intéressante discours pour parler de qu'est-ce que c'est une bonne théorie scientifique, parce que souvent, en tant d'astronome, on avait des lettres ou des messages qui arrivent de gens qui réclament d'avoir résolu, par exemple, le problème de la matière noire en faisant quelques petits changements ici-là. Il faut rappeler toujours que chaque nouvelle théorie doit être capable d'expliquer toutes les observations qu'il y en a, pas seulement de seules choses qu'on aimerait bien résoudre. Donc, un bon modèle doit être capable d'expliquer plein de choses différentes. Et faire une modification de gravité peut-être va résoudre, par exemple, la courbe de rotation des galaxies, mais ne va pas, par exemple, nous amener d'expliquer la distribution de galaxies à grandes échelles ou la formation des structures. Ça, c'est la figure que tout le monde toujours montre au début du séminaire, mais je vais le montrer maintenant. C'est juste un petit résumé de notre image de la formation de structure de l'univers elle-même pour montrer que notre chemin d'action, c'est cette zone ici entre les parties où l'univers est devenu opaque après le Big Bang, 380 millions d'années après le Big Bang. Et c'est pattern sur cette structure qui met beaucoup de contraintes sur notre modèle cosmologique. Et ensuite, la naissance et l'agrandissement de structure. Mais je ne vais pas parler du le modèle cosmologique ici et dans cet exposé. Dans la prochaine partie de mon talk, je vais maintenant aller plus loin et on essaie de comprendre maintenant qu'est-ce qui se passe dans cette zone ici, plus loin que les images qu'on a vues dans les images du Sloan. Donc, comment cette distribution de galaxies était différente dans un passé lointain? Et pour cela, je vais parler du le projet Cosmos, qui est un projet qui a commencé dans les années 2003. C'est très spécial, ce projet. Beaucoup de nous qui étaient dans le projet depuis le début, on est toujours là, parce qu'il y a une ambiance très, très spéciale dans l'équipe. Et on avait arrivé de travailler très bien ensemble. On avait aussi arrivé d'attirer beaucoup de nouvelles étudiantes et de post-docs. Et le projet est resté toujours vivant. Et une autre raison qui est spéciale, qu'on avait un artiste en résidence depuis le début du projet, Carol Nell. Et Carol, il vient à chacune de nos réunions et il présente son travail. Et ça, c'est une image qu'il avait faite presque tout au début, qui montre en fait le champ cosmos à l'intérieur des constellations. Et si vous faites une petite recherche sur Internet, c'est dommage que ce soit pas dans l'amphi, mais il avait fait un dessin de l'amphi de l'IAP avec le blindé, le volet qui était cassé au début de le projet Cosmos en 2006. Donc, pour montrer justement le contraste entre la matière noire et la matière lumineuse. Pour revenir à l'idée, mais pourquoi on avait besoin d'un champ plus grand pour voir plus lointain. En fait, vous avez certainement vu les images des champs comme par exemple le Hubble Deep Field. Le Hubble Deep Field, c'est un tout petit champ qui correspond à une taille comme ici. Et si vous imaginez que si on a étudié l'univers avec le Hubble Deep Field, ça montre en fait la matière noire avec les galaxies lumineuses ici. Et on voyait que les types de galaxies différentes, il y a plusieurs types de galaxies différentes. Et si vous mettez un Hubble Deep Field sur une petite carré là, vous rendez compte que vous avez juste un type de galaxie, les galaxies rouges ou les galaxies bleues. Vous ratez totalement toute cette grande diversité de galaxies, galaxies sur tous les champs. Et ça veut dire que on ne voit pas l'environnement des galaxies ni les structures à grande échelle. On rate totalement cette belle structure filamentaire. Donc, il faut avoir plus de galaxies et une structure plus grande. Et on avait bien pensé que ce serait super de faire ça avec le Hubble Space Telescope parce que c'est un des télescopes plus sensibles. Il sera capable de mesurer les formes des galaxies sur de très grandes échelles. Mais tout le monde a dit Hubble n'est pas fait pour de relever sur les grandes étendues. Le champ de vue de la caméra sur Hubble, c'est trop petit. C'est fait que pour les petits sondages, disaient les autres astronomes. Mais on avait proposé et on avait de grandes chances que le programme était accepté. C'était le plus grand télescope Hubble et avec la caméra ACS sur Hubble, on a réussi à couvrir à peu près 1,6 degré carré. On voyait ici le champ Cosmos vu par Hubble avec les autres champs par comparaison. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On avait déjà vu les effets de la matière noire sur les distributions de galaxies, mais c'est déjà bien connu que la lumière d'un objet distant, comme une des prédictions de Einstein théorie de gravité générale, c'est que la lumière elle est déflétée par la présence de masse. Et dans les amas de galaxies, vous avez tous vu les images ici où il y avait un amas de galaxies avec la matière noire au centre. Il fait cette image magnifiée et étendue des galaxies en arrière-plan à cause de la matière noire au centre des galaxies. Et à partir de ces images, vous pouvez reconstruire en fait le profil de matière noire au centre des galaxies. Ça, c'est déjà une chose fabuleuse. Mais en fait, ça marche aussi pour la matière noire qui est partout dans l'univers. Ça, c'est une image faite par Stéphane Colombi ici à l'IAP il y a très longtemps, qui montre justement le path de matière noire, le chemin de la lumière à travers l'univers. Et le fait de la matière noire, c'est de défléter le path du le chemin de la lumière. Donc l'idée, c'est qu'on va prendre les images du cosmos ici, on va regarder chaque galaxie, et s'il y a des galaxies lointaines entre nous et les galaxies, s'il y a des matières noires entre nous et les galaxies lointaines, ça va faire un petit effet sur la forme des galaxies. Et à travers une analyse de ces formes, les formes qui sont corrélées, si les formes sont corrélées, ça veut dire qu'il y a un morceau de matière noire. Et à partir de ce type de cartographie, on était capable de sonder, en fait, justement, faire une cartographie de matière noire en trois tranches du redshift qui correspondent à des distances de la Terre plus éloignées. Et ça fait cette belle film en couleur qui montre justement la matière noire entre nous et l'univers lointain vu par la structure dans le champ cosmos. Désolé, c'est un peu saccadé. Ça, c'est un film qui j'ai pas arrivé de transcoder pour pour qu'on puisse voir un peu mieux. Pourquoi je vous montre ce vieux film? Parce que avec ce travail en cosmos, on a montré la faisabilité d'utiliser les images depuis l'espace pour sonder la présence de la matière noire dans l'univers à l'échelle cosmique. Et ça nous amène directement à Euclide, parce que l'idée derrière Euclide, c'est de faire un sondage de 15 000 degrés carrés de le ciel, 15 000 degrés carrés du ciel, de données HST sur tout le ciel, sur 15 000 degrés carrés, excusez-moi. De faire une mesure de forme et de distance d'un milliard de galaxies sur tout le ciel extragalactique. Pourquoi 15 000 degrés carrés? Parce que c'est le seul, c'est la plus grande surface qu'on peut faire qui n'est pas sur les galaxies. Ça, c'est la galaxie là. C'est le ciel extragalactique. On ne pouvait pas aller ici parce qu'il y a des lumières de notre propre système solaire. Et c'était à partir de ce ciel extragalactique, Euclide aime, le but de Euclide, c'est de sonder la nature de l'énergie noire en faire une mesure de la quantité de matière noire dans chaque tranche du redshift. Je ne vais pas rentrer dans des explications trop détaillées de Euclide, mais je vous montrerai après, en fait, qu'est-ce qu'on peut apprendre de la matière noire à partir de ce type des images. Et Euclide contient une caméra optique et une caméra infrarouge. On voit ici caméras VIS, et ça, c'est la caméra NISP, monté sur le payload module pendant des tests récents. Et le plus grand défi en Euclide, donc ce n'est pas un grand télescope, c'est les précisions optiques du miroir principal. Et c'était grâce à cette précision optique qu'on est capable de faire les mesures de forme précises de toutes ces galaxies et sonder ensuite faire la cartographie de la matière noire. Mais je reviens en fait et je veux dire aussi c'est que c'est extrêmement difficile à faire cette mesure de forme de galaxie parce que il y a plein d'autres effets instrumentaux qu'il faut régler avant de faire cette mesure de forme. C'est un travail très dur et difficile. Je vous montre nous dans l'Euclid Grand Segment dans la cave depuis 15 ans de tenter de régler tous ces problèmes, car les images brutes d'Euclid sont souffertes de plein d'effets différents qu'on doit corriger pour arriver d'avoir des galaxies pour lesquelles on peut faire une mesure de forme. Mais je ne veux pas rentrer dans ces détails aujourd'hui. Je reviens sur les questions. Je vais montrer là. On fait la cartographie de matière noire, on a fait la cartographie de galaxies, mais quel est le rôle exact de la matière noire dans la formation des galaxies? Et on peut faire un constat assez intéressant parce que on peut faire le constat si vous comparez le nombre de galaxies, on peut observer les galaxies avec nos télescopes. Et on peut simuler la matière noire avec un ordinateur. Et si on suppose que chaque galaxie se trouve dans, il y a une galaxie dans chaque îlot de matière noire. Et si on dit qu'il y a une galaxie dans chaque îlot de matière noire, suppose qu'il y a une seule galaxie dans un îlot de matière noire. OK? Et si on compare, par exemple, le nombre de galaxies et le nombre des îlots de matière noire, pour un nombre donné de galaxies, quelle est la masse de l'îlot de matière noire correspondante? Pour expliquer un peu plus avec le curseur, imaginons que j'ai dit qu'il y a une galaxie dans chaque îlot de matière noire. Et si j'avais un tel nombre de galaxies, ça correspond quoi en termes de masse d'îlots de matière noire? On fait une correspondance entre la masse moyenne des galaxies et la masse moyenne de matière noire. Et tu fais ensuite cette petite courbe-là qui montre en fait la masse en étoile divisée par la masse des îlots de matière noire en fonction de la masse des îlots de matière noire. Tout ça, c'est un peu compliqué, donc l'autre slide il explique les choses un peu plus clairement. Quand vous regardez en détail, en fait, le nombre des îlots de matière noire et le nombre des îlots de galaxies, vous trouvez qu'il y a une énorme différence. Et ça veut dire que pour les îlots peu massifs, il y a une énorme écart. Il y a beaucoup plus des îlots de matière noire par rapport aux galaxies. Et c'est la même chose pour des halos de matière noire très massive. Il y a très peu de galaxies. Ça veut dire qu'en fait, il y a un processus qui fait que les galaxies n'arrivent pas à se former dans des halos massifs, on dit dans des halos peu massifs. Et si on peut cartographier cet écart entre le nombre des halos de matière noire et le nombre de galaxies, on a un signal de l'efficacité de formation de galaxies en fonction de masse des halos. Je n'arrive pas à voir si les gens sont complètement mystifiés dans l'amphi, mais je vais continuer quand même. Et ça montre, cette petite film essaie de montrer un peu qu'est-ce qui se passe maintenant, parce qu'on peut faire des simulations hydrodynamiques maintenant de la formation de galaxies. Et la chose qui est intéressante, c'est que c'est une simulation faite par mes collègues ici à l'IAP. Et la chose qui se passe ici, c'est que derrière, on ne voit pas, en fait, il y a des halos de matière noire et il y a des gaz. Et déjà, la chose qui se passe, c'est que les galaxies sont attirées par... les gaz et tout sont attirés sur le prix potentiel de matière noire, se forment et ensuite, il y a des processus comme par exemple les explosions de supernova qui fait que au-delà d'une certaine masse, les processus de formation d'étoiles sont arrêtés. Donc, on avait déjà dit que pour certains types de halos, la formation de galaxies sera difficile à cause de ce type de processus physique. Et ça, c'est le signal qui est envoyé quand on constate qu'il y a cette énorme différence entre le nombre des halos de matière noire et le nombre de galaxies. Maintenant, je vais passer sur les... Donc, on avait vu le processus entre les distributions de galaxies, distributions de matière noire, et les, un peu de, des enjeux de comprendre les différences entre les deux. Là, dans la deuxième partie, je vais parler de les observations et les études qu'on peut faire pour comprendre qu'est-ce qui se passe beaucoup plus loin, dans la nuit de temps. Donc, j'ai fait une écho volontiers à le plus grand livre de science-fiction de tout le temps, soit en français, soit en anglais. Et je vais tenter de vous expliquer aussi qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette époque lointaine avec les nouveaux télescopes qui sont en préparation ou qui sera lancé bientôt. Et ça, c'est une version la plus belle de la figure que je vous montrais tout à l'heure. Et l'histoire de l'univers maintenant se décline dans ces époques. J'avoue que j'ai utilisé le traducteur automatique et je pense que certaines de ces traductions sont un peu approximatives, mais voilà. L'âge sombre, donc, après les recombinations, après l'univers devenu opaque, l'univers, c'était le gaz neutre. Il n'y avait pas d'étoiles, il n'y avait pas de galaxies, c'était la nuit noire. Ensuite, les premières galaxies, les étoiles, se forment sur cette période de Cosmic Dawn. Et ces galaxies et ces étoiles sont spacées à la réionisation de l'univers. Et ensuite, on passe à la Cosmic Noon, où de plus de galaxies forment des étoiles. Et c'est le pic de formation des étoiles dans l'univers. Les choses qui nous intéressent maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe dans cette zone ici. Entre l'époque sombre, l'arrivée de la première galaxie dans cette époque de Cosmic Dawn, où les galaxies sont en train de rayonner l'univers, il y avait cette boule de matériel qui est ionisée. Et ensuite, on passe à une époque où l'univers est complètement ionisé. Et si on voulait observer ces objets lointains, il faut un catalogue des objets sélectionnés par la lumière infrarouge. Et la raison pour ça, c'est assez simple parce que comme l'univers est en expansion, le problème, c'est que la lumière de la galaxie lointaine devient de plus en plus décalée vers la rouge. Et pour observer les objets lointains, on avait besoin de longueurs d'onde de plus en plus importantes. Et c'est extrêmement difficile pour faire des objets, des catalogues des objets par l'infrarouge, parce que déjà, comme vous avez déjà peut-être entendu parler, les fentes présentes dans l'infrarouge, elle est très importante. Et depuis le début du projet Cosmos, on avait tenté d'augmenter la couverture du ciel en Cosmos en infrarouge. En 2020 ou 2018, juste avant la pandémie, on a décidé que c'était temps de relancer sur un nouveau catalogue Cosmos en utilisant toutes les données qui étaient collectées soit par nous ou soit par les autres équipes dans le champ Cosmos. Car dans les dernières 15 ans, le champ Cosmos a devenu incontournable pour des études de l'univers lointain. Faut peut-être juste expliquer que toutes ces données sont publiques et les gens sont utilisés soit le travail qu'on a fait nous, soit le travail qui est fait par les autres équipes pour améliorer notre compréhension de l'univers. Et ça, c'est juste un petit film que je vais montrer rapidement qui montre justement ce processus de réionisation fait par les équipes à Lyon. Et on voyait le processus par lequel l'univers est devenu ionisé grâce à la formation des premières étoiles et les galaxies. Et je sais que Gillian Lagache a parlé de tous ces processus en grand détail il y a 2 mois. Mais je passe directement à Cosmos. Donc c'était un énorme travail où on avait réuni toutes les données sur le champ Cosmos et le truc hyper important, c'est qu'on avait pris les données infrarouges prises avec le télescope spatial Spitzer et avec UltraVista, qui est un projet qu'on a commencé en 2003 ou 2004, qu'on a observé depuis 10 ans d'observation sur le champ Cosmos. Et vous avez déjà vu que c'était différent de faire les mesures de distance des objets avec la spectrographie. Mais il y a une autre technique qui permet de faire le mesure de distance en utilisant que les couleurs. Et on voit ici une petite figure qui montre justement qu'en bas, on avait des distances réelles. Et en haut, c'est la distance estimée avec cette méthode d'estimation basée sur les couleurs des objets. Et à droite, on avait toutes les parties du ciel qui sont couvertes par les différents télescopes. J'aurai bientôt plus d'eau. Ça serait intéressant. OK. Ça, c'est une petite image de le champ Cosmos en infrarouge avec les galaxies qui sont à peu près dans la zone de la carte que je vous montrais à tout à l'heure, sont à peu près on dirait 6 ou 7 milliards d'années-lumière. Donc, cette figure est très compliquée, mais je vais essayer de donner une esquisse rapide. La chose que je vais montrer ici, c'est le ratio entre la matière noire et la matière lumineuse. Donc, cet axe ici, matière en étoile, matière noire, en fonction de matière noire, en fonction de l'échelle de redshift. Donc, ça, c'est aujourd'hui. Et ça, c'est le passé, à peu près 4 ou 5 ans. Et la chose qu'il faut remarquer ici, c'est que les parties massives, les ratios et les basses, à cause de ce problème de l'efficacité de formation de galaxies dans les halos massifs. Et la chose qu'il faut retenir de cette figure, c'est que la location de cette pic, pour la première fois, on est capable de suivre l'évolution de cette pic au moins jusqu'à Z égale 2, à moins que 6 milliards d'années-lumière. Et la location de cette pic change et devient plus importante. Et ça veut dire qu'en fait, l'efficacité de formation des galaxies dans les halos de matière noire déplace vers les halos plus massives. Et ça, c'est un résultat très intéressant parce que ça indique qu'à grand redshift, c'est plus facile à former des galaxies dans les halos plus massives. Et de certaines théories de formation des galaxies qui indiquent qu'il y a des flux froids de matériel sur les halos de matière noire à grand redshift. Et on accorde avec cette observation qui a quand même de très grandes barres d'erreur. Je ne veux pas parler, cette petite ligne ici montre en fait des prédictions des dernières simulations numériques. Et vous voyez qu'ils n'arrivent pas trop bien à reproduire les résultats. Une deuxième chose qu'on peut faire, qui est intéressante, c'est qu'on peut simplement regarder dans le catalogue pour les objets lointains. On avait déjà vu les recherches des premières galaxies, c'est une chose très active en astronomie. Je vous montre dans ce petit film, on voyait les techniques d'estimation de distance. En gros, on regarde le flux dans chaque longueur d'onde. Ça, c'est la longueur d'onde courte et la longueur d'onde plus importante. Et on voyait ici, pour les objets qui sont très distants, je vais arrêter le film ici. Le film arrête à z égale 7. À z égale 7, vous voyez qu'il n'y a pas de lumière dans la partie BVI, donc ça, c'est la partie visible. Il n'y a que la lumière dans la partie infrarouge. Et dans le champ cosmos, on avait trouvé ces objets ici qui ont des flux que dans la partie infrarouge. Et ça, c'est des objets qui, nous, on pense que sont à redshift 7 ou 8. Donc, parmi les objets des galaxies plus lointaines jamais découvertes. On voit ici un petit résumé de ces objets. Vous voyez, ils sont totalement invisibles dans la partie optique, et ils sont visibles que dans la partie infrarouge. Et je n'ai pas expliqué, mais la raison pour ça, c'est que je rends tout le monde malade en derrière comme ça. C'est que la lumière courte de ces galaxies s'est complètement arrêtée par tout ce matériel-là. Reviens à la figure. Et qu'est-ce qu'on peut dire à partir de le comptage de ce type d'objets? On voyait que, en fait, les galaxies très lumineuses qu'on voit ici sont très rares. Mais Cosmos, il est grand, donc on peut voir ces objets qui ne sont pas très faciles à trouver. Et cette figure montre, en fait, le nombre de ces objets ici en fonction de luminosité. Donc, les galaxies très lumineuses sont ici. Et dans le champ Cosmos, en fait, vous voyez les gens différents ici, mais Bowler, Stefanon sont des autres travaux qui sont faits dans le champ Cosmos qui sont plus ou moins en accord avec le travail qu'on avait fait nous. Et on trouve tous que il y a plus de galaxies brillantes que prévu par rapport aux modèles. Ça, c'est très intéressant parce que ça montre aussi un signal de l'efficacité de formation de galaxies dans le type de halo massif qu'on a dans les galaxies à ces redshifts-là. Mais c'est clair qu'on avait besoin de plus de surface parce que dans tout le champ cosmos, on avait seulement une ou deux galaxies comme ça qui n'est clairement pas assez pour faire des conclusions définitives. Et on revient à Euclide. Et Euclide, comme j'avais déjà mentionné, c'est très difficile à faire des mesures de l'antigravitationnel. Et Euclide a besoin de champs d'étalonnage qui sont beaucoup plus profonds que le sondage principal Euclide. Et ces champs d'étalonnage permet de, en fait, justement, calibrer les biais inhérents dans les mesures de forme, dans les images de relevé principal Euclide qui sont moins profondes. Ça veut dire que dans le relevé principal Euclide, on avait toutes ces mesures de forme des galaxies et on sait qu'il y avait un problème, qu'il y a des biais inhérents sur les mesures de forme. On voyait ici une galaxie qui est comme ça, mais en réalité, on mesure un truc comme ça. Mais si on avait un champ profond, on peut regarder les galaxies, ce type de galaxie-là dans un autre champ plus profond pour voir justement quelles sont ses vraies formes. Mais ces champs profonds, ça sera une mine d'or pour les applications du Legacy Science. Ça veut dire que des études sur les formations de l'évolution des galaxies. Parce qu'il sur le champ plus profond jamais observé par Euclide en visible en proche infrarouge. Mais pour faire ça, il faut rajouter les données optiques et des autres longueurs d'onde pour ces champs profonds Euclide pour faire les travaux sur la mesure de distance que je vous montrais tout à l'heure. Et ça montre une petite simulation d'une des champs de calibration Euclide. Et cette champ self-cal, en fait, ça sera observé tous les 25 ou 30 jours pendant les 6 ans de l'émission. Et ici, je vais montrer en fait une image observée par le Euclid Grand Segment dans lequel on avait fait le traitement complet. Donc, il faut imaginer que cette champ, ça sera très profonde au fin de l'émission. Donc, on avait lancé un programme pour faire la couverture de tous ces champs Euclid avec les données secondaires dans les autres longueurs d'onde. Je vous montre ici les 3 champs profonds de Euclid. Et dans la prochaine transparente, je vous montre où sont ces champs profonds sur le ciel. Et ces champs montrent en fait les couvertures en infrarouge proche qu'on avait faites sur le champ Euclid avec le télescope Spitzer. Et ces données maintenant vont être utilisées en combinaison avec les données principales d'Euclid pour trouver le type des objets que je vous montrais tout à l'heure. Ça, c'est les 3 champs profonds d'Euclid qui on avait fait une couverture avec Spitzer qui représente à peu près 10% de toutes les données Spitzer jamais prises pendant toutes les durées de vie du télescope. Spitzer, c'est un télescope spatial avec une couverture en infrarouge importante. Et un des premiers travaux qu'on a fait, c'est d'utiliser champ pour regarder justement les premiers amas. Et dans le champ profond Euclide, en utilisant que les données Spitzer et les données de Herschel, on a déjà trouvé environ 30 ou 40 premiers amas. On voit ici les objets qui sont en excès dans le champ Spitzer, qui sont détectés ensuite dans le champ Herschel. Et on va tenter de suivre ces bandes en submillimétrique. Et un autre travail qu'on tente de faire avec les données Cosmos, c'est de trouver cette boule ionisée. Et on avait fait un travail à partir du 30 nuits de temps Keck. L'idée, c'est de prendre la spectroscopie des objets dans le champ Cosmos qu'on avait trouvé dans notre catalogue pour trouver des émissions Lyman alpha qui doit être présente s'il y a des boules lumineuses. Et ça, c'est un travail qui est en cours, mais c'est très difficile à faire une mesure d'une galaxie à Z égale 7 avec un télescope au sol. C'est clair qu'on avait besoin de quelque chose de mieux. C'est clair qu'on avait besoin d'un télescope plus sensible pour avoir plus de chance avec de trouver ce type de structure. Et je viens maintenant sur JWST. Vous avez déjà vu avec nous en Cosmos, on avait passé 10 ans pour amasser les données seulement en infrarouge pour Cosmos. Et JWST, c'est un projet qui était commencé il y a très, très longtemps. Il y avait une workshop en 89 pour proposer la prochaine génération de grands télescopes. Et il y a une longue histoire autour des designs de JWST qui viennent en fait que quel est le télescope le plus grand qu'on peut mettre dans une fairing d'un Ariane 5. Et le facteur limitant de l'aperture de James Webb, la taille de miroir, c'était la taille de la fairing d'Ariane 5. Et comme vous avez entendu, il y a simplement trop de fonds en infrarouge au sol. Pour voir ces objets lointains, on a besoin de réduire le fond et augmenter le nombre de photons d'objets. Donc, pour faire ça, il faut aller quelque part très, très froid, le L2 ou James Webb, il est actuellement en chemin. Et avoir une grande couverture collectrice. Et les instruments principaux du web sont des caméras NIRCam, le Spectrograph NIRSpec et MIRI. Ils sont là dans le Ça, c'est la caméra NIRCam. La chose qu'il faut voir tout de suite là, c'est que la taille de vue de NIRCam, il est très petite. Il est 2.2 arc-minutes. Donc, c'est très petit. Et ça, c'est une très belle image que vous avez tous vue peut-être. Je mentionne juste, c'est fait par une caméra fabriquée par une équipe irlandaise qui avait mis cette caméra sur le coiffe du... sur le second stage du Ariane, et c'est la dernière vue par les êtres humains du James Webb avant de passer en chemin pour L2. Mais c'est sûr qu'il faut avoir une surface, il faut avoir plus de galaxies sur une grande surface pour un magnitude plus faible. Et la chose qu'on aimerait bien faire, c'est de faire une mesure de forme des galaxies à grand redshift pour faire une mesure directe de la masse des halos de matière noire. On aimerait bien aussi comprendre l'environnement sur cette galaxie. Je vous montre à droite le travail fait ici, IAP par Clotilde Laigle et les autres. À partir des données photométriques, c'est capable d'extraire en fait la structure filamentaire de galaxie. Et on a bien dit, nous, en Cosmos, que ce serait bien de faire un projet comme ça avec JWST. Mais tout le monde a dit, en fait, mais James Webb, c'est pas du tout fait pour ce type de relevé sur les grandes étendues. Le champ de vue du Webb, il est petit. Ça va prendre un temps de télescope énorme, disaient les autres astronomes. Mais on avait quand même proposé de faire une couverture du Cosmos avec JWST. Le proposal a été accepté pour 200 heures d'orbite de James Webb. Et je vous montre ici une belle simulation fait par nos collègues américains, qui montre justement le Hubble Deep Field, on voit ici, que vous avez entendu parler. Et qu'est-ce qu'on voit le Hubble Deep Field par Webb? Donc, beaucoup plus des objets. C'est un peu saccadé. Regardez bien cette petite barre. On voit le nombre de galaxies qu'on voyait dans le, avec Webb. Ça va continuer à augmenter encore. Ça serait beaucoup mieux si j'étais là. Hein. Là, on voyait le nombre de galaxies qu'on attend en Cosmos Webb avec la surface de la Lune. Et donc, ça sera fabuleux. Et la chose qui a aussi s'est donnée comme les autres programmes GEO sur Webb, toutes ces données, ce sera public et nous, on va fabriquer un catalogue à partir de ces données pour tout le monde et ce sera utilisé ensuite par les autres astronomes pour faire le suivi des objets présents dans le champ Cosmos Webb. Et ça, c'est juste une petite figure pour les astronomes, mais c'est assez compliqué, mais il faut voir par cette figure-là. Ça, c'est la profondeur de données Cosmos que je vous montrais tout à l'heure. La partie grise, c'est qu'est-ce qu'on avait actuellement. La partie rouge, c'est la profondeur qu'on attend avec Cosmos Webb. Et les petites lignes, là, montrent tous les types de galaxies différentes qu'on serait capable de distinguer avec Cosmos Webb. Donc, tous ces types de galaxies, ça sera faisable avec Cosmos Webb, avec les profondeurs beaucoup plus importantes. Par exemple, les données IRAC que je vous montrais tout à l'heure, c'est plusieurs ordres de grandeur plus importantes. Et pour donner une idée, le nombre de galaxies différentes, actuellement, on avait à peu près 150 galaxies entre 8 et 10 avec tous les relevés et tous les données Cosmos. Et avec Cosmos Webb, on aura 600. Et à bas redshift, il est encore plus important. Il y aura à peu près 4000 ou 5000 galaxies. Et pour les galaxies très éloignées, il y aura à peu près 30 ou 40. Et je vous montre dans le presque dernier slide, il y avait un autre programme aussi sur Cosmos, fait par nos collègues Jim Dunlop, pour faire une couverture de Cosmos sur un champ beaucoup plus petit. Donc, les petites couvertures que je vous montre ici, très hautes, montrent les différents programmes dans le premier cycle du Web, il y a des Cosmos Web, qui est cette grande couverture ici, et il y a Primer Cosmos et Primer UDS. Et ces deux surveys, le Primer Cosmos, va faire une couverture d'une toute petite partie de Cosmos, mais avec beaucoup de longueurs d'onde différentes. Et ça permet de distinguer entre les types de galaxies différentes. Voyez ici, sans les données MIRI, qui sera présente dans Primer, tu es incapable de distinguer entre ces trois types de galaxies. Et je vous avais montré à tout à l'heure les données IRAC en Cosmos actuel, et avec MIRI sur Web, on aura beaucoup plus de résolution. On sera capable de distinguer et faire les mesures de flux de ces types de galaxies à ces longueurs d'onde avec beaucoup plus de précision. Voilà, je suis presque terminé. Ça, c'est les trois, quatre choses que je veux dire à la fin. Avec la grande surface par rapport à la petite surface, on était capable de trouver des galaxies beaucoup plus rares et beaucoup plus massives. Le nombre de galaxies massives, c'est très sensible à la physique de formation des galaxies. Et à partir de cette mesure d'abondance, on peut estimer en fait la capacité des galaxies des galaxies à se former à l'intérieur des halos de matière noire, et ça permet de faire une compréhension du processus de formation des galaxies dans l'univers assez loin. Et on peut imaginer en Cosmos 2025 qu'est-ce que sera dans la prochaine mouture de Cosmos. On aura des images du télescope Rubin, les grands télescopes optiques au sol, car le champ Cosmos, c'est une des champs clés pour le télescope Rubin. Il y aura des images du Euclide en vise. Il y aura aussi des images profondes de JWST. On peut imaginer dans cette carré de ciel, on sera capable de voir toutes les galaxies de la masse de la Voie lactée jusqu'à une fraction de l'âge de l'univers. Ça sera une partie du ciel où on aura une image incontournable de l'histoire de la formation des étoiles et des galaxies jusqu'à très loin, juste un très grand redshift. Merci beaucoup et j'espère que vous arrivez à me comprendre plus ou moins. Dernier vote de l'eau. Voilà.
Eh bien, merci à toi, Henry. Donc, dans le public, il y a quelques personnes. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à lever la main. Sur le chat de YouTube, il y a quelques commentaires, mais pas grand-chose. N'hésitez pas à en mettre plus. Y a-t-il, pour commencer, des questions dans la salle ? Ah, il n'y en a pas. Alors, moi, je vais commencer par en poser une.
OK.
Henry, quand tu parlais de Cosmos 2020, à un moment, tu montrais une méthode pour mesurer les distances et tu montrais la distance mesurée avec cette méthode sur l'axe des Y et sur l'axe des X, la distance réelle. Et donc, on se pose une question, voilà, exactement ça. C'est quoi la distance réelle? D'où vient-elle? Comment est-elle mesurée? Et comment sait-on que c'est la bonne, en fait?
Oui, en fait, la distance réelle, je parlais de distance spectroscopique. Pendant des années, des gens ont observé le champ Cosmos avec les télescopes. Ils ont très péniblement fait une mesure réelle des galaxies. Et c'est à partir de cette base de données qu'on utilise pour tester notre méthode. Et les deux lignes-là correspondent à deux méthodes différentes. Parce que une des choses les plus contentieuses dans l'astronomie, avec ce type de méthode, c'est que les gens peuvent dire « Vous avez fait une erreur sur votre méthode estimée. » Donc, on avait deux méthodes indépendantes qui donnent plus ou moins la même réponse. Et cette base de données, elle est publique aux astronomes et on essaie d'agrandir avec des autres mesures de distance réelle pour la prochaine mouture de catalogue pour encore augmenter la fiabilité de notre mesure. Les choses qu'il faut voir là aussi, c'est que c'est un peu technique, mais les galaxies à droite sont des objets qui sont très, très faibles, extrêmement faibles. Et les galaxies à gauche sont des galaxies brillantes. C'est pour ça qu'il y avait moins d'incertitudes.
Mais parler de distance réelle, c'est pas un petit peu abusif, non?
Je peux dire distance spectroscopique si vous voulez, mais bon.
Enfin, en fait, c'est la distance.
Qu'est-ce que tu veux dire, distance réelle?
En fait, on fait plus confiance à ces distances-là mesurées par cette méthode, c'est ce que tu veux dire?
Oui, parce qu'il y avait plusieurs gens qui ont fait cette mesure avec les distances spectro qui sont plus fiables que faire la mesure juste avec la photométrie.
D'accord, merci. Je vois un commentaire, là, une question sur le chat de YouTube. Il y a quelqu'un qui nous dit « Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la relation entre les amas de galaxies et les îlots de matière noire. » Est-ce que tu as moyen de redire quelques mots là-dessus, s'il
oui,
te plaît?
Oui, absolument. Merci pour la question. En fait, les amas de galaxies sont les structures les plus massives et ils se trouvent les amas, si vous avez des images en rayon X, et vous voyez les distributions des objets dans l'univers, vous voyez que les amas sont toujours à le centre des énormes îlots de matière noire. Donc, les objets plus massifs sont dans des îlots de matière noire plus massives. Et les galaxies eux-mêmes, ils sont dans des îlots de matière noire qui sont plus petites. On voit ici, par exemple, imaginons que ça, c'est un amas de galaxies. Et là, en fait, on a des galaxies individuelles. À l'intérieur de ça, on voit les sous-îlots qui sont, correspondent, par exemple, à la galaxie satellite de notre galaxie. C'est une hiérarchie de structures.
OK, merci bien. Je relance dans la salle pour voir s'il n'y a toujours pas de commentaires, mais je ne vois aucun doigt qui se lève. Tout à l'heure, il y avait un commentaire sur... plus d'organisation de ces programmes là sur Euclide, le lanceur d'Euclide. Il est question qu'Euclide soit lancé par une fusée Soyouz, et donc on sait évidemment
oui,
les
sûr.
Problèmes qu'on a actuellement avec la Russie. Et donc, et le lanceur est-il définitivement choisi pour Euclide? Et peux-tu nous rappeler la date de lancement, s'il te plaît?
La date de lancement, c'était mars 2023, et il y avait toujours une incertitude sur le lanceur de Euclide parce que en fait, c'était presque. Le dernier lanceur prévu, dernier lancement avec Soyuz prévu. Donc, on avait toujours pensé la possibilité que Euclide, ça sera lancé sur une Ariane 6. Et actuellement, les discussions au cours du consortium, c'est probablement que ça sera lancé sur une Ariane 6. Mais c'est entame de certain nombre de délais parce que avec un programme comme Euclide, il faut avoir au moins deux lancements de Ariane 6 de notre satellite avant de mettre quelque chose comme Euclide. Donc, il faut peut-être lancer des satellites OneWeb avant de mettre Euclide dessus.
D'accord. Et les gens qui construisent ces deux satellites là avant, ils seront d'accord avec ça? Enfin, ils...
Oui, ouais, ils avaient un bon prix.
Bon. Il y avait quelque chose aussi que tu as vu. Moi, je ne connaissais pas cette expression. Là, quand tu as présenté le pic de formation d'étoiles, tu avais la traduction française, là, le midi cosmique, le cosmic noon. C'est une expression qui est largement utilisée. Moi, je ne connaissais pas ça. Le midi cosmic
noon, c'est utilisé tout le temps par les gens qui travaillent sur l'extragalactique. Je ne savais pas que, comme on fait tous nos séminaires en anglais, je ne savais si c'était très répandu dans le... Cosmic Noon, oui. High Noon. Et, parce qu'en fait, si tu regardes le taux de formation des étoiles en fonction du redshift, on voyait que le pic de formation des étoiles est à cette époque-là, à Z égale 2. Et après ça, les galaxies cessent de former des étoiles.
OK, bah moi j'aime bien cette expression midi-cosmique. Il y a une question qui est de savoir jusqu'où peut voir le JWST en milliards d'années-lumière. Est-ce que tu peux donner un peu un ordre de grandeur? Tu as un petit peu répondu, mais on le donne souvent en décalage vers le rouge, en redshift, en Z, qui est parfois un petit peu...
On a un peu du mal à l'appréhender. C'était quoi la question, excusez-moi?
Jusqu'à quelle distance peut observer le JWST, le James Webb, le télescope spatial James Webb?
On espérait de voir les premières galaxies, donc on espérait de voir les galaxies entre 15 et 20. 0.18.
Quelle unité? Tu peux c'est redire en année-lumière, quel nombre ça va faire, s'il te plaît?
En année-lumière, il faut que je fasse ça. Non, ce sera à peu près, mais c'est facile, tu prends 13.7 là, et tu soustrais 0.2, donc tu as 13.5, donc 13.5 milliards d'années-lumière.
Voilà, 13 milliards et demi d'années, 13,5 milliards d'années-lumière, merci. Alors,
on serait capable d'observer les premières galaxies. Et c'était le figure qu'on avait donné avec, avec les chiffres à la fin. Désolé pour les... ça sera fabuleux et certainement on va trouver les choses. Donc, le nombre de galaxies est plus grand que 10. Ces chiffres-là sont les choses incluses dans le proposal, mais on attend entre 30 et 50. Mais le truc, c'est que ces chiffres-là sont très incertains parce que ça dépend sur beaucoup de choses. Déjà, on n'a pas attendu de trouver autant de galaxies brillantes dans le cosmos. Donc, il y a peut-être beaucoup plus.
OK, merci bien. Ah, je vois une question dans le public, alors je vais me diriger dans le public pour transmettre le micro. S'il vous plaît.
Oui, bonsoir. C'est une question archi-basique d'astronome amateur très, très basique aussi. Il me semble, quand on regarde dans la direction de la constellation de la Vierge, on voit des amas de galaxies. Vous confirmez,
oui,
c'est ça? Est-ce que ça a été étudié, ça? Voilà. L'amas de la Vierge. On dit souvent l'amas de la Vierge, c'est ça?
Les Virgo Cluster, oui, c'est un très grand amas, très proche. Et il y avait beaucoup d'études qui sont faites sur cet amas, notamment, par exemple, les gens qui étudient les amas, par exemple, aimeraient bien savoir, par exemple, comment les types de galaxies dans l'amas varient en fonction des distances de l'amas, parce qu'il y a un processus de fusion de galaxies au centre des amas. Et des gens qui sont font des carrières entières avec ça. Et nous, on observe qu'on va à l'OHP avec les étudiantes parce qu'ils sont proches et faciles à observer. Je crois qu'on n'a même pas observé depuis le centre de Paris. Et les amas de galaxies sont intéressants et utiles parce qu'ils permettent d'avoir une idée le processus de formation de galaxies vu par en des échelles de temps différentes. Par rapport à observer des choses beaucoup plus lointaines. Parce que vous voyez bien que la quantité de détails qu'on avait avec, on a avec des images James Webb sur les galaxies lointaines n'est pas très importante.
Alors, il y a une autre question sur le chat, Henry, sur la versatilité du télescope spatial James Webb. Oui. On entend parler beaucoup en ce moment parce qu'évidemment, il fait plein de choses. Donc là, tu nous as présenté des choses qui pourraient être faites. Il fait des choses sur les exoplanètes, sur tout un tas de choses. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment s'organise la répartition du temps d'observation sur un télescope comme celui-là?
Donc, sur James Webb, il y avait deux types de programmes. Il y avait des programmes de temps garanti, guaranteed time. Et ces programmes sont des programmes qui sont alloués de gens qui savaient construire des instruments. Et ces gens-là, en gros, ils peuvent faire comme ils veulent. C'est pas tout le temps de James Webb, par contre. Et le plus important quantité de temps, c'est des guest observer programs, des GEO programs. Et ça, c'est des programmes qui étaient décidés après un processus de revue. Tout le monde dit, moi, je veux faire X ou Y ou Z. Et tous les proposals sont envoyés dans une manière anonyme à Space Telescope à Baltimore, qui ensuite organise des revues de tous les proposals dans une manière complètement anonyme. Et ensuite, les astronomes sélectionnent des programmes qui sont observés par plusieurs comités. Et en fait, c'est une des premières fois que pas seulement les reviewers sont anonymes, mais l'équipe aussi sont anonymes. Et une des grandes succès de ce programme, c'est que les choses qui sont souvent arrivées par le passé, c'est que certains programmes n'avaient pas eu le temps parce que, par exemple, quelqu'un dit cette équipe-là, ils n'ont pas d'expérience ou tout ça. Comme l'identité de toutes les équipes était inconnue, il y avait pas mal de temps de télescopes qui étaient même donnés aux doctorantes ou des gens qui n'étaient pas du tout connus dans la communauté. Donc, le programme, le selection, la fonction, façon que les choses qui étaient sélectionnées étaient très, très bien marché et étaient très égalitaires. Et nous, on est surtout très contents de voir que Cosmos était sélectionné pour plusieurs programmes. En plus de ces deux programmes-là, il y avait une des thésards de notre groupe a eu 30 ou 40 heures pour observer des galaxies en cosmos.
Okay, merci pour ces précisions. En effet, c'est assez nouveau comme système que les personnes qui sont évaluées sont anonymes. C'est assez fréquent en science qu'on envoie des résultats et ils sont évalués par des qu'on appelle des référis, donc des personnes qui évaluent de manière anonyme notre travail. Et le fait que ce soit les personnes elles-mêmes qui proposent qu'ils soient anonymes aussi, c'est assez nouveau et c'est intéressant en effet. Peut-être pour illustrer, est-ce que tu peux te dire, toi, Henry, comme chercheur impliqué dans ces types de programmes, tu es impliqué dans combien de programmes du télescope James Webb?
Je suis dans 4 programmes, qui est un peu exceptionnel.
Alors peut-être c'est une question indiscrète, mais combien, tu me réponds si tu veux, mais tu avais fait combien de propositions? Donc tu as 4 programmes qui sont passés, et tu en avais fait combien d'autres qui peut-être ont été refusés? Mais tu n'es pas obligé de répondre si tu considères que ce n'est pas une question, que tu veux rester discret là-dessus.
En fait, on avait des chances parce que tous les programmes dans lesquels j'étais impliqué, qui avaient Cosmos, sont passés.
Ah bah, félicitations, 4 demandes et 4 propositions ouais, sur le télescope spatial.
Non mais c'était pas du tout normal en fait. Je veux dire que par le passé, depuis le début du programme Cosmos, on avait proposé de faire des autres large programmes avec HST sur le champ Cosmos. Et depuis 2006, tous ces programmes étaient refusés. Donc on était presque à la boue là, tu sais.
Ouais, bah bien, mais t'as une idée de la pression sur les programmes du James Webb sur... Et c'était combien
énorme.
À peu près?
C'était énorme, c'était un facteur 4 ou 5.
Un facteur 4 ou 5, d'accord. Ouais. D'accord, merci. Et encore quelques questions avant qu'on arrête. Je vois écrit la dernière là. On a surtout parlé d'optique. Il me semble que les radiotélescopes sont intéressants aussi pour observer l'univers primitif, notamment ALMA.
Absolument.
Ou SKA.
Oui, ALMA en fait, s'il te plaît. Est très très puissant. Oui. ALMA est très puissante pour confirmer les distances de ces objets parce qu'il y a certaines lignes, notamment en carbone, qui sont visibles avec ALMA. Le problème, bien sûr, avec ALMA, c'est qu'on ne pouvait pas faire une couverture d'une grande surface, mais c'est très, très intéressant et utile pour confirmer les distances de certains objets. Oui. Et bien sûr, le futur, ça sera les grandes surveys en 21 cm. Qui va permettre justement de cartographier l'univers à grande distance. Mais ça, c'est encore quelques années à venir dans le futur.
OK, merci. J'en vois plus trop d'autres. Là, y a-t-il, si, encore une question, plusieurs questions dans le public. Alors, je passe le micro.
Ça, c'est bien que j'avais peur. C'est dommage que je ne pouvais pas être là avec vous.
Bonsoir. Ma question, c'était, vous avez parlé de modèles théoriques qui étaient comparés aux modèles du coup qu'on avait pu observer. Et comment oui. ils sont faits, en fait, ces modèles théoriques? Est-ce qu'ils sont basés sur des théories spéciales ou est-ce que c'est avec des formules qui sont appliquées avec des ordinateurs, etc.?
En fait, je parlais de 2-3 types de modèles différents. En fait, il y a des choses basiques qu'on veut faire, c'est de faire des simulations avec les particules de matière noire. Et ensuite, le problème avec la matière noire, c'est qu'il n'y a pas de galaxie. Donc, ensuite, la question, comment tu fais pour faire un modèle de la formation des galaxies? Et ces modèles de formation des galaxies, maintenant, c'est fait avec le gaz, comme dans les vraies galaxies. Mais le problème avec ce modèle, en fait, c'est qu'ils ne sont pas capables de simuler un modèle, un volume cosmologique important, parce que ça prend trop de temps d'ordinateur pour simuler rapidement des galaxies over une grande surface. Donc, il y a un modèle phénoménologique. Dans ce modèle phénoménologique, tu dis que pour chaque halo de matière noire, il y a des galaxies si certaines autres conditions sont atteintes. Et ça permet en fait de remplir les halos de matière noire avec les galaxies dans une manière empirique. Et c'est pas top, mais ça peut être utile pour faire les predictions sur les plus grandes échelles. Mais ça reste un problème très compliqué et difficile de prédire correctement les répartitions des galaxies en petites échelles parce qu'il y a une interaction extrêmement compliquée entre la matière noire et la matière lumineuse. Et ces échelles-là reste encore inconnu et en fait en Euclide, une des grandes incertitudes, c'est de modéliser correctement la matière noire sur les petites échelles sans faire trop de présupposition sur le comportement à petites échelles.
Merci. Il y a l'autre question dans la salle. Juste avant, une question sur le chat. Est-ce que tu sais quand on aura les premières, quand on pourra voir les premières images du télescope spatial James Webb? Et je rajouterai même, est-ce que tu sais si elles seront spectaculaires? Est-ce qu'on sera scotché? Moi, je me souviens qu'on a vu les premières images du télescope spatial Hubble. Il y en a un certain nombre. On était vraiment épatés de voir ça. Est-ce que là, tu penses que ce sera la même chose? Et donc, ce sera quand?
Donc, les premières images vont arriver dans le mois de... mai-juin, où ils vont, vont mettre à disposition les images de premier programme SEERS. Et, mais je ne sais pas si... je n'ai pas regardé la liste de targets des objets. Je ne sais pas, ils ne vont pas regarder les galaxies brillantes proches. Nous, on sera tous... attendre de voir qu'est-ce que ça va donner, mais pour nous en astronomie, oui, ça sera vraiment impressionnant, je pense. Mais il faut bien rendre compte que les, je ne veux pas montrer les derniers, vous avez peut-être vu ces images-là. Ça montre en fait les miroirs du James Webb. Donc, Webb, il est composé de segments différents et les segments doivent être alignés. Et là, l'image qui était sortie une semaine dernière, c'était, ils ont réussi d'aligner tous les miroirs. Donc, ça, c'est petit GIF. Donc, on voyait les 18 miroirs séparés sont alignés. Et la prochaine image montre, en fait, l'image finale qui montre une étoile vue par les caméras NIRCam, alignée parfaitement avec la belle image de diffraction qui a le fait de... on voit ici dans cette image de diffraction, en fait, tous les segments du web. Pour les gens qui sont travaillés sur ce télescope depuis 30 ans, ça, c'est une image très impressionnante déjà.
OK, merci. Encore une question là dans le public. J'y vais.
Bonsoir. Merci pour cette conférence. C'était passionnant. J'avais une question. On a beaucoup entendu parler de la précision du tir effectué par Ariane 5. Ce qui nous faisait espérer peut-être que du coup le lancement du télescope, enfin le fonctionnement du télescope spatial James Webb serait prolongé de 5 voire 10 ans pour une durée totale de 10 à 20 ans si on arrive à bien économiser le carburant. Et du coup, est-ce que des synergies sont envisagées avec les futures missions de l'ESA comme les missions Plateau ou Ariane Ariel si je ne me trompe pas? Est-ce que c'est envisagé actuellement avec du coup ce carburant supplémentaire?
Je ne pouvais pas répondre à ces questions spécifiques, mais oui, bien sûr, parce que la première chose que tout le monde a dit, si James Webb ici en 20 ans, qu'est-ce qu'on peut faire? Et, c'est certain que pour tous les autres projets, même de faire des télescopes, des autres télescopes optiques, parce que vous savez que James Webb n'est pas du tout un remplacement de Hubble, c'est un autre type de télescope en infrarouge. Et ça serait bien d'avoir un grand télescope optique en orbite aussi sensible que James Webb. Et je vais mentionner que, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais Saul Perlmutter, prix Nobel en physique, est en discussion avec Elon Musk pour faire un télescope à lancer avec le Starship d'Elon Musk, qui sera un télescope optique, parce qu'avec le lanceur de Musk, ce sera facile de faire un télescope de grande ouverture, de ne pas passer 15 ans de faire un truc qui referme comme il fait James Webb. Je ne sais pas si répondre à votre question, mais oui, l'answer est oui, absolument. Et j'espère bien que, je ne sais pas, il y a mes collègues à l'IAP comme Pierre Guillard et Pierre qui avait travaillé sur James Webb beaucoup plus longtemps que moi. Il y a d'autres facteurs limitants maintenant sur la vie de James Webb, mais au moins, ils n'avaient pas le même type de gyroscope qui utilisaient en Hubble, qui sont des gyroscopes en Webb qui sont complètement sans des composantes qui peuvent devenir défectueuses après en longtemps.
Et puis peut-être pour compléter ta réponse aussi, vous parliez de la mission Plateau qui va travailler plus sur les exoplanètes. Et puis j'y pense parce qu'il y a une question là qui demande aussi ce que va faire le télescope James Webb sur les exoplanètes. Donc il y a plein, c'est une thématique complètement différente, mais il y a plein de programmes également là-dessus. Et les découvertes de Plateau seront intéressantes. Et donc c'est très bien aussi pour ce type de programme si le James Webb peut durer plus longtemps comme ça semble être le cas.
Oui. NIRCam, elle a un chronographe qui permet justement de faire des observations des exoplanètes. Donc, ce serait bien d'avoir une grande conférence à grand public sur les exoplanètes et James Webb.
Bah, c'est noté, Henry. On note cette proposition. Et en effet, ce serait bien de parler d'exoplanètes avec le James Webb ici même. Je pense qu'on programmera ça bientôt. Peut-être une toute dernière question pour finir. Tu as en partie répondu, mais c'est intéressant parce que c'est quand même une grande question. Est-ce qu'il est possible que l'on fasse fausse route sur la matière noire et que ce soit un phénomène émergent de la gravité? Le James Webb pourra-t-il y répondre ou donner des éléments de réponse à cette grande question de l'astrophysique?
Oui, certainement, avec les mesures de forme des objets, il y a certaines mesures qui peuvent nous apprendre des choses sur la matière noire. Mais les missions qui va vraiment nous apprendre la vraie nature de la matière noire, l'énergie noire, c'est Euclide, parce que Euclide est fabriqué pour justement faire une couverture d'une grande surface. Et le problème, c'est que ce type de déviation qu'on cherche, c'est une déviation très petite qui demande un très, très grand nombre d'objets. Et James Webb, le programme Cosmos Webb, c'est le seul programme cosmologique dans le premier proposal web. Et le vrai travail sur la matière noire, ça sera fait avec Euclide. Mais c'est tout à fait, je suis tout à fait d'accord qu'on est dans cette situation étrange. Et on aimerait bien qu'on ait trouvé une meilleure explication. Il y a par exemple des travaux très, très intéressants faits par des chercheurs qui regardent, par exemple, les spectres de quasars très distants. Et avec ça, tu peux utiliser des spectres des objets pour faire un chronomètre cosmique, qui est un autre moyen de sonder des évolutions cosmiques de l'univers en utilisant des objets comme les quasars, des âges de quasars comme une sonde de l'univers. Donc peut-être il y a des autres techniques qu'on n'avait pas évoqué jusqu'à maintenant qui serait utile avec Webb.
Ok, merci. Merci beaucoup, Henry. Je ne vois plus de mains se lever, donc dernier tour, mais non, je pense que c'est bon. Donc je vous propose d'arrêter là pour ce soir. Merci à vous d'être venus à l'Institut d'astrophysique. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis sur Internet. Merci, Henry, d'avoir fait cette conférence à distance, malheureusement, mais donc à très bientôt à l'IAP. Dès que tu seras négatif, question virus, mais positif pour le reste. Et donc, on se retrouve le mardi 5 avril prochain pour une conférence par notre collègue Rosine Lallemand, comme je vous le disais. On mettra bientôt le résumé et le titre de sa conférence sur notre site web, mais ça parlera très probablement, je crois, de milieu interstellaire, si je me souviens bien. Donc, les informations sont sur notre site web. Donc, merci à vous. Bonne soirée, à bientôt.
Merci, au revoir.